Videns fidem illorum, dixit paralytico, confide fili, remituntur peccata tua. Voyant leur foi, il dit au paralytique, aie confiance mon fils, tes péchés te sont remis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voyant leur foi. Notre Seigneur pourrait-il encore aujourd'hui prononcer les mêmes paroles? Lorsqu'il regarde l'état de l'humanité présente, surtout lorsqu'il regarde la hiérarchie de son Église, quelle foi voit-il? Qui aujourd'hui, parmi ceux qui pratiquent encore, croit dans toutes les vérités enseignées dans le catéchisme de Saint Pie X, par exemple? Notre Seigneur ne devrait-il pas plutôt s'exclamer, comme il y a quelques jours, dans l'évangile du mercredi des quatre temps, « Ô generatio incredula, ô génération incrédule !» Car, comme dit le psalmiste, « les vérités ont été diminuées par les enfants des hommes. » Et si aujourd'hui une vertu est attaquée, c'est bien la vertu de foi. Mais qu'est-ce que la foi? Si on pose la question à un enfant qui a bien appris son cours de catéchisme, il nous répondra en nous récitant son acte de foi. « Mon Dieu, je crois fermement à toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Sainte Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. » Et il aura raison. Bonne réponse. Premièrement, « Mon Dieu ». Mon Dieu, je crois. Mon Dieu. La foi est avant tout une connaissance de Dieu. Mon Dieu. L'objet premier qui est atteint par la foi, c'est Dieu. En disant cela, il nous faut tout de suite faire une petite distinction. Car la foi n'est pas n'importe quelle connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas en effet de la connaissance qu'ont les philosophes de Dieu, les bons philosophes. Celle que notre raison, par ses seules forces naturelles, nous procure. Car il est vrai que la raison est capable d'arriver à la connaissance de l'existence de Dieu. Saint Thomas a, à ce sujet, recensé 5 voies, ou 5 preuves, preuves qui suivent toutes le même principe. Nous observons dans le monde certains effets, certaines œuvres, certaines actions. Or, pas d'effet sans cause. S'il y a de la fumée, il y a un feu. S'il y a de la chaleur, il y a une source de chaleur. Pas d'œuvre sans auteur. S'il y a un livre, quelqu'un l'a écrit. Il y a un écrivain derrière. Pas d'action sans agent. Si la boule roule sur la table de billard, elle a été mise en action par quelqu'un ou quelque chose. Il en est de même pour l'univers tout entier, qui est un effet, une œuvre, le fruit d'une action. Les preuves de l'existence de Dieu nous font remonter à une cause infinie, première, qui est Dieu. Aussi, quelle aberration d'imaginer une seule seconde un monde sans Dieu, qui flotterait comme cela sans cause, sans auteur. Cette connaissance que nous avons de Dieu par la raison est déjà quelque chose, ce n'est pas rien. Mais la foi va nous faire monter beaucoup plus haut et beaucoup plus rapidement. Par la raison, Dieu n'est atteint qu'en tant qu'il est auteur de la nature, qu'il a créé le monde, en tant qu'il est créateur et providence. La foi, elle, nous fait atteindre le Dieu de la révélation, celui qui nous a dévoilé sa vie intime, la trinité de ses personnes, ses relations de connaissance et d'amour en Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela, notre raison est incapable de le savoir par elle-même. Il faut une révélation de Dieu. Il faut que Dieu nous ait révélé sa vie intime. La foi nous conduit donc bien, donc bien beaucoup plus haut que la raison. Elle nous conduit à une connaissance surnaturelle de Dieu. Et il n'y a pas de mesure entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Et nous devons comprendre ici tout de suite qu'il faudra nécessairement une grâce de Dieu, un cadeau de Dieu, pour arriver à une telle connaissance. Deuxièmement, toutes les vérités que vous nous avez révélées. Si Dieu est le principal objet de notre foi embrasse du même coup un grand nombre de vérités que Dieu nous a révélées. Mais pour cela, il nous faut un guide sûr pour interpréter la parole de Dieu. Aussi Dieu a fondé une Église dont une des charges principales est d'enseigner et de nous expliquer les vérités de la foi que Dieu a révélée. D'où ce qu'ajoute notre acte de foi et que vous nous enseignez par votre Église. Les protestants qui ont rejeté l'Église n'ont pas ce guide sûr. Et c'est pour ça qu'ils sont éparpillés, divisés en une multitude de sectes sans aucune autorité doctrinale. Troisièmement, je crois. Mon Dieu, je crois. La foi est une croyance. Cette connaissance que la foi nous donne sur Dieu, sur sa vie intime, les grands mystères de notre sainte religion, est une connaissance inaccessible à notre raison, laissée à ses seules forces et uniquement par le raisonnement. Au ciel, nous verrons Dieu, face à face, par notre intelligence. Mais pour voir Dieu, il faudra d'abord mourir. Ici-bas, la seule connaissance surnaturelle possible de Dieu est par la foi. Ici-bas, nous ne pouvons que croire. En soi, la croyance est un mode de connaissance inférieur à l'évidence qui frappe nos sens, ou même au raisonnement qui emporte l'adhésion de l'intelligence. Cependant, c'est tout de même un mode de connaissance que nous employons très fréquemment dans l'ordre naturel. Qui d'entre nous a visité toutes les capitales du monde, a vu toutes les capitales du monde pour s'assurer de leur existence? Qui d'entre nous doutera du chemin parcouru par Jules César dans ses campagnes? Ou encore, qui doutera de la composition d'une molécule d'eau? Pour arriver à ces connaissances, la plupart des hommes ont dû faire confiance, prêter foi, se laisser enseigner, ont dû croire en des personnes qualifiées. La croyance est un mode de connaissance qui se fonde sur la confiance au témoignage de quelqu'un. Et c'est comme ça que tout enfant reçoit les premières connaissances. Il fait confiance à ses parents, qui l'enseignent. Puis ensuite, il fera confiance à ses maîtres. Plus tard, il acquérera par lui-même des connaissances en réfléchissant. Mais les premières connaissances, par la foi, par la confiance en des autorités. Pour que cette confiance soit fondée, soit sûre, deux conditions sont nécessaires. La compétence et la loyauté. Compétence. Que celui qui enseigne sache réellement ce qu'il prétend révéler. Loyauté. Qu'il ne veuille pas tromper. Et ces deux conditions sont réalisées dans la foi, dans cette révélation que Dieu nous a faite. Dieu n'a pas jugé convenable de raisonner avec nous. Il a parlé, et comme il exigeait la foi à sa parole, il a donné autorité à sa parole. Comment ? Non en homme, mais en Dieu. En déployant toute la puissance divine, pour que la foi soit fondée non pas sur la sagesse de l'homme, mais sur la force de Dieu. Et Dieu a toujours utilisé un mode qui lui est propre pour donner crédit à sa parole, un mode proprement divin que lui seul peut employer, le miracle. Notre foi est assurée par les miracles que Dieu a fondés. Il est raisonnable de croire en la révélation, car le bon Dieu a posé sa signature, et cette signature, c'est le miracle, et des miracles innombrables, tant pour les prophètes, et surtout par notre Seigneur Jésus-Christ durant sa vie. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Le miracle est la grande signature de Dieu. Nous avons vu premièrement que l'objet principal de notre foi, c'est Dieu, un et trine. Puis deuxièmement, que notre foi embrasse du même coup toute la révélation que Dieu nous a faite. Enfin, troisièmement, que la foi est une croyance. Nous croyons en Dieu. Quatrième point, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Ce n'est pas le miracle qui donne la foi. Le miracle nous assure que notre foi n'est pas un saut dans l'absurde. Émile Zola a bien vu un miracle à Lourdes, mais il ne s'est pas converti. Il ne s'est pas converti. Il a refusé la grâce de la conversion. La foi est un assentiment de notre intelligence, à la vérité révélée, à cause de l'autorité de Dieu, qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et cet attachement à l'autorité de Dieu est impossible sans le secours même de Dieu. Il faut une grâce de Dieu qui nous aide à adhérer à son autorité. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Le point capital ici est à cause de l'autorité de Dieu. On croit en Dieu plus qu'à quelque chose. On croit à quelque chose, à la révélation, à cause de Dieu, à cause de son autorité, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et c'est ici que nous touchons du doigt pourquoi la foi est en danger. Pourquoi la foi est en danger. Même parmi ceux qui se disent catholiques, un grand nombre pensent que ce qu'ils croient ne peut être imposé à eux-mêmes et à personne pour aucun motif supérieur à celui de leur libre appréciation. Comme dit Don Sarda Isalvani, dans son livre exceptionnel, Le libéralisme est un péché, que tout le monde devrait avoir lu. Don Sarda commente, de telle sorte, à leur insu, le diable a malicieusement substitué en eux le principe naturaliste du libre examen, comme les protestants, principe naturaliste du libre examen, au principe surnaturel de la foi. D'où il résulte, conséquence, tout en se figurant avoir la foi des vérités chrétiennes, ils pensent qu'ils ont la foi des vérités chrétiennes, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Et quand ils ont seulement une simple conviction humaine, ce qui est tout différent, ce n'est pas la foi. C'est une simple conviction humaine, certes sur un donné révélé, mais le motif est humain. Ce n'est pas la foi. La foi, encore une fois, c'est croire en Dieu à cause de Dieu. C'était l'erreur de certains catholiques libéraux du XIXe siècle. Cette erreur perdure encore. Mais il s'y était ajouté une erreur encore plus pernicieuse, celle du modernisme. Pour les modernistes, la foi n'est plus un assentiment de notre intelligence à la vérité révélée, mais une espèce de sentiment religieux flasque et mou. Dieu étant inconnaissable par la raison, l'homme le trouvera dans les profondeurs de la subconscience. C'est Saint Pie X qui parle dans l'encyclique Pascendi. Cette doctrine délétère a complètement corrompu un grand nombre d'esprits de l'Église conciliaire. La foi n'étant plus qu'un sentiment, pourquoi dans ce cas le sentiment religieux qu'on trouve dans les autres religions ne serait-il pas vrai et donc respectable? Cette doctrine conciliaire du sentiment religieux, c'est la ruine de l'apostolat missionnaire. C'est une négation radicale de la parole de saint Paul. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cette doctrine détruit la foi. Elle détruit le fondement premier de tout l'ordre surnaturel. Il ne reste rien. C'est terrible. C'est terrible. Il est temps de conclure. Nous prendrons trois résolutions, si vous le voulez bien. Tout d'abord, restez bien humble. La foi est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Grande humilité. Merci, mon Dieu. Il faut savoir remercier. Nous ne nous sommes pas donné à nous-mêmes la foi. C'est Dieu, dans sa bonté, qui nous a fait ce cadeau. Il faut savoir dire merci. Deuxièmement, cette foi qui nous a été donnée est une vertu. Elle doit grandir. Elle doit s'enraciner de plus en plus profondément dans nos intelligences. Nous avons le devoir de la faire grandir. Bien sûr, c'est une vertu théologale, c'est Dieu qui fait grandir la foi directement, ce n'est pas nos efforts. N'empêche, il y a quand même des choses à faire pour que Dieu puisse agir. Et ces choses, c'est tout d'abord la prière du matin et du soir bien faite, un temps d'oraison, de méditation le matin, 10 minutes, un quart d'heure, du temps passé avec le bon Dieu, dans la foi. La lecture aussi, lecture doctrinale, au moins une fois par semaine, une demi-heure par semaine. Lecture spirituelle, tous les jours, 5-10 minutes, ou plus si on peut. Pour vivre dans un climat surnaturel, un climat de foi. Sans cette lecture, c'est très difficile. Elle est nécessaire. Et enfin, troisième résolution, il nous faut vivre de notre foi. Il serait anormal que nous ayons toutes ces vérités, que nous croyons en Dieu et que nous vivions comme des païens. Ce serait anormal. Un chrétien, ça doit se voir, ça doit se sentir. Et c'est à cette seule condition que, comme dit saint Augustin, en croyant ce que nous ne voyons pas, nous mériterons de voir ce en quoi nous aurons cru. En croyant ce que nous ne voyons pas, nous mériterons de voir ce que nous aurons cru. Et c'est aussi ainsi que nous gagnerons des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il pourra reproduire le miracle de l'Évangile d'aujourd'hui. Voyant leur foi, il dit au paralytique, « Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.